sur Europe 1 avec Wendy Bouchard jusqu'à 11h. Il est 9h01.
Europe 1.
9h, 11h.
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. Nous sommes ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de la question avec 1 heure de débat pour commencer à l'occasion de l'affaire Balkany. On se demande si les politiques sont des justiciables comme les autres. Entre les procès pour l'exemple, l'apparent acharnement dont parlent ces politiques, en a-t-on fini avec une certaine impunité ? Dans le monde judiciaire, les noms d'Alain Juppé, de Jacques Chirac, de Jérôme Cahuzac, de Jean-Noël Guérini, de Nicolas Sarkozy, de Jean Tiberi, de François Fillon, de Bernard Tapie n'ont cessé de circuler. Quelle relation entre la justice et ses politiques. Qu'en dites-vous ? Eh bien, nos deux invités, deux grands avocats, Maître Olivier Pardo et Maître Maisonneuve, vous répondent. N'hésitez pas à témoigner, à donner votre sentiment aussi. On va avancer sur le sujet jusqu'à 10h, Julie.
Le standard attend vos appels. 39-21, 50 centimes la minute.
Et puis à 10h, je vous interroge sur votre rapport aux séries. Le dernier épisode de la dernière saison de Game of Thrones était diffusé hier soir. Chaque feuilleton a été suivi par 30 millions de fans dans le monde. Et les Français aussi sont accros. Entre conquête du pouvoir, crime, trahison, histoire d'amour dans ce royaume du passé, qu'on peut situer un peu où l'on veut. Là encore, venez réagir, on vous accompagne. C'est le sommaire du tour de la question jusqu'à 11h ce matin.
9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec les politiques au cœur de la justice, Maître Olivier Pardo, bonjour. Merci d'être avec nous, avocat au barreau de Paris. Vous qui avez notamment défendu Bernard Tapie et Rachida Dati. Maître Patrick Maisonneuve également, avocat au barreau de Paris. Bonjour Maître, vous qui avez défendu notamment Christine Lagarde et qui avez publié il y a quelques années, on la trouve encore en librairie aux éditions Plomb, Justice et politique, le couple infernal. C'est précisément la thématique qui nous réunit ce matin. Alors que nous avons entendu des mots tempétueux la première semaine de l'affaire Balkany et du procès des époux Balkany, Maître Dupond-Moretti réclamant un ultime délai pour son client. Il y a une telle volonté de le mettre au trou, a-t-il dit, mais c'est pas un chien, Balkany. Est-on pour vous dans une forme d'acharnement au-delà des faits qui lui sont reprochés, Maître Maisonneuve ?
Je ne pense pas qu'il y ait une forme d'acharnement, parce que d'abord, toute personne qui comparaît devant un tribunal, elle fait l'objet d'une ordonnance de renvoi par des juges d'instruction, et par des juges d'instruction qui sont aux ordres de personnes, qui, par définition, sont des juges indépendants. J'entends ici ou là qu'on parle souvent de complot. Et je ne veux pas parler de l'affaire Balkany parce qu'elle est actuellement en cours, donc je me garderai bien de me prononcer
bien
sur
sûr.
Une affaire en cours. Mais la théorie du complot, la théorie du cabinet noir, etc., c'est quelque chose qui revient régulièrement. J'ai entendu ça au moment de la mise en cause de monsieur Fillon. C'est une thèse qui a été développée à ce moment-là. Mm-hmm. Et il y a quelque chose qui me gêne profondément dans cette théorie-là, c'est qu'on ne peut pas demander non plus à nos citoyens, à nos concitoyens, de respecter le droit, donc de respecter les juges, de respecter la justice, et lorsqu'on a mis en cause soi-même en tant que responsable politique, d'en appeler à ce moment-là au complot des juges. On ne peut pas dire tout et son contraire.
Alors je vous entends là-dessus. Alors si on met de côté l'idée du complot, il y a la théorie de l'exemplarité, que mettent en avant d'ailleurs un certain nombre de ceux qui défendent ces politiques. Vous allez écouter Maître Olivier Pardo, Maître Dupond-Moretti, et réagir, lui qui dénonce justement cette volonté de faire exemple.
Écoutez. La justice rendue au pied du mur de l'exemple parce qu'il s'appelle Balkany. J'ai donné quelques statistiques qui étaient assez intéressantes sur la fraude fiscale, oui. C'est l'infraction qu'on appelait autrefois le sport national, et j'ai donné des pourcentages de fraude pratiquées par différentes professions, et c'est un document qui est intéressant parce qu'il a été établi avec des agents du fisc. Et on voit bien, mais tout le monde le sait, que Balkany, c'est pas le seul fraudeur du fisc. Donc il a fraudé le fisc, il doit être condamné. Mais la justice, elle peut pas être rendue au pied du mur de l'exemple. C'est clair, c'est net et c'est précis.
Ajoutons qu'il a plaidé coupable pour fraude fiscale et que Patrick Balkany encourt 4 ans de prison avec incarcération immédiate pour cela. Mais volonté de faire exemple au pied du mur, Maître Olivier Pardo, vous suivez ?
Moi, je crois que l'exemple, c'est pas une bonne solution pour la justice. C'est-à-dire que, si je reprends la formule du livre de Patrick Maisonneuve, dans le couple infernal entre justice et politique, il y a eu un changement de dominant-dominé.
Oui.
Longtemps, le dominant, c'était le politique vis-à-vis de la justice. Aujourd'hui, il y a une inversion. Le dominant, c'est la justice par rapport au politique.
L'exemple, y compris dans l'opinion publique,
chaque fois que vous ouvrez un journal, et quand on est couple européen tous les matins, on se dit tous les jours, ça commence par une affaire judiciaire. C'est quand même extraordinaire. commence par une affaire judiciaire.
C'est pas nous qui les inventons.
C'est pas vous qui les inventez. C'est une réalité. Et l'exemple le plus fort, c'est quand même l'affaire Fillon. Parce que pour la première fois, on peut penser ce qu'on veut de Fillon, de qu'est-ce qu'aurait été la campagne présidentielle sans les affaires, mais il est certain que la justice s'est invitée, et de quelle manière, dans une campagne présidentielle. Et peut-être, dit-on, que si François Fillon n'avait pas eu cette formule très malheureuse en disant, imagine-t-on, le général de Gaulle mis en examen, et qu'ensuite il se soit retrouvé lui-même par une procédure en accéléré mise en examen, peut-être que l'histoire aurait été différente. Donc vous voyez, il y a un grand changement aujourd'hui. Alors évidemment, dans notre droit, on ne juge pas pour l'exemple. C'est-à-dire que quand vous êtes jugé, à ce moment-là, vous êtes jugé sur un dossier en principe.
Oui.
Avec ce que vous avez fait, et vous êtes pas, il y a pas une responsabilité collective, c'est-à-dire c'est votre responsabilité individuelle pour ce que vous êtes.
Mais alors,
alors évidemment, c'est un exemple dans les réquisitions. On a bien vu, Patrick, c'est rare quand même 4 ans d'emprisonnement ferme avec mandat dépôt à l'audience.
Est-ce que c'est parce qu'il s'appelle Balkany que la peine et que le réquisitoire est si important?
C'est pas parce qu'il s'appelle Balkany, c'est parce partir du moment où on a sollicité le suffrage de ses concitoyens, M. Balkany ou quelqu'un d'autre, peu importe, on se doit à ce moment-là, et c'est une problématique de démocratie à ce moment-là, on se doit vis-à-vis des concitoyens de ce pays, sinon ça va alimenter quoi? Vous savez, l'immense majorité des femmes et des hommes qui sont élus dans ce pays sont des gens tout à fait honnêtes. Mmh. L'immense majorité
donc
de nos élus.
Donc on se doit d'être vertueux.
Sauf que ce qu'on appelle les affaires, et c'est pas la justice qui crée les affaires, c'est pas les médias qui créent les affaires, c'est que les affaires, elles sont créées parce qu'elles existent, les affaires. Lorsqu'on on parle de populisme judiciaire, il y aurait pas de procès s'il y a pas d'affaires. Bon, c'est pas le procès qui crée l'affaire. On va pas mettre les choses à l'envers. Lorsqu'on sollicite les suffrages, en tant que parlementaire, en tant que maire, effectivement, on se doit à ce moment-là, parce que c'est l'image que l'on renvoie, on se doit, sur ce terrain de l'exemplarité, à ne pas franchir la ligne jaune.
D'accord, donc exemplarité,
vertu. Parce que sinon, si la théorie, elle est tous pourrie à ce moment-là, qu'ils prennent le pas.
Donc forcément, ils prennent un peu plus cher pour cette exemplarité mise en péril.
Forcément, simplement, parce que moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que j'ai été confronté à ce qu'on appelle les affaires politico-judiciaires. Je constate qu'aujourd'hui, d'ailleurs j'attire l'attention des rares politiques qui pourraient franchir la ligne jaune, que les magistrats sont beaucoup plus rigoureux aujourd'hui. La peine d'inéligibilité, elle est quasi systématique les réquisitions du parquet et dans les décisions des juridictions aujourd'hui.
Et là, pour vous, Olivier Pardoux, ce ne sont pas des juges qui se changent en justiciers, ce sont simplement des juges qui font acte d'une réalité. Les politiques doivent être plus vertueux que les autres citoyens par exemplarité propre, comme vient de le dire votre confrère.
Alors, une distinction entre les textes, parce qu'au fond, normalement, un juge, et je l'ai été avant d'être avocat, il n'a pas rajouté au texte. Et Patrick Maisonneuve a raison, il y a des peines spécifiques pour les hommes politiques, c'est-à-dire, par exemple, l'inéligibilité. Mais il est écrit nulle part dans le code pénal que parce que vous êtes un homme politique, vous devez prendre plus cher que parce que vous êtes un chef d'entreprise, un journaliste, un avocat, etc.
Là, donc, on est dans un contexte.
Là on sent bien qu'il y a quelque chose qui bouge et qu'il y a une prise en compte, c'est logique, parce que c'est au nom du peuple français, de ce qui est l'opinion. Mais attention, quand on fait cela, il faut que les politiques soient vertueux, mais il faut que les magistrats soient parfaitement vertueux. Et quand vous avez, par exemple, des politiques ou des journalistes qui, moi je pense à Éric Zemmour que je défends, qui sont jugés par certains magistrats qui faisaient partie du syndicat de la magistrature qui avaient affiché un mur des cons sur lequel il y avait sa photo, c'est sûr que là, on se dit qu'il y a deux légitimités qui vont s'affronter. Donc le défi, c'est pour les politiques, être plus vertueux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une circonstance aggravante d'être homme politique, mais il faut que la justice soit parfaitement à la hauteur et qu'elle soit vraiment totalement indépendante, ce qu'elle est dans la majorité des cas.
C'est l'indépendance. L'indépendance, ce n'est pas seulement indépendant par rapport au pouvoir politique. On a connu pendant de très longues années, historiquement, je dirais, les procureurs qui étaient aux ordres du garde des Sceaux, qui lui-même appartenait à un gouvernement. On ne va pas refaire l'histoire, mais effectivement, on exécutait
cette période-là
ce que disait...
Cette période-là est révolue.
Cette période-là, elle est largement derrière nous. D'ailleurs, maintenant, en 97, si ma mémoire est bonne, Madame Guigou avait pris la décision qu'il n'y aurait plus d'instruction qui serait donnée au procureur dans ce pays. On revient de loin, vous savez, par rapport à ça. Mais l'indépendance, c'est aussi l'indépendance par rapport à ses a priori, par rapport à ses convictions. Ouais. Bon, effectivement,
c'est là où
le juge, il n'est pas... Ouais. Il doit tendre vers l'indépendance. Oui. Il doit prendre le recul nécessaire. Ce n'est pas un règlement de compte, effectivement.
Et une heure de débat ce matin avec Patrick Maisonneuve et Olivier Pardo, deux avocats au barreau de Paris qui connaissent bien ce sujet des politiques face à la justice. On va vous donner un certain nombre d'exemples qui ont peut-être contribué à déconsidérer la fonction. Voilà pourquoi la justice peut aussi, en prétendant que ces hommes politiques sont des justiciables comme les autres, remettre un petit peu tout à niveau. N'hésitez pas à nous appeler, Julie, on vous attend au standard. Hein,
au 3921. On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique. En marge de l'affaire Balkany, nous nous demandons jusqu'à 11h si les politiques sont des justiciables comme les autres. Wendy Bouchard.
Avec Maître Olivier Pardo, avocat au barreau de Paris, ancien magistrat qui a notamment défendu Bernard Tapie et Rachida Dati, et Maître Patrick Maisonneuve, auteur de Justice et Politique, Le couple infernal aux éditions Plon, avocat lui aussi au barreau de Paris. Ces mots, messieurs, que je vous livre tout de suite de Nicolas Sarkozy. Nous sommes en 2014, l'ancien président s'exprime sur France 2 sur ce fameux conflit entre politique et impunité.
Je ne suis pas un citoyen au-dessus des autres, mais je ne suis pas un citoyen en dessous des autres. Et je veux dire du fond du cœur aux Français quelque chose, toute la campagne présidentielle. C'est peut-être le seul moment où j'ai un peu de colère en moi, parce que la colère, elle m'a quitté. Mais là, je n'aime pas l'injustice. Toute la campagne présidentielle, on a expliqué aux Français que j'étais mouillé dans l'affaire Bettencourt, que j'avais extorqué de l'argent à une vieille dame. 2 ans et demi d'enquête, 4 perquisitions. 22 heures d'interrogatoire, à l'arrivée, non-lieu. 3 juges qui ont décidé que j'avais rien à voir avec cette affaire. Qui me rendra mon honneur ?
Et cette formule, je ne suis pas au-dessus des lois, mais je ne suis pas en dessous non plus, Maître Olivier Pardo, elle a du sens aujourd'hui pour un certain nombre de politiques ?
Alors, d'abord, c'est une formule qui est du béaba de tous ceux qui défendent des hommes politiques. Mmh. Première chose que l'on dit, ils ne sont pas... au-dessus des lois, ça c'est
donc
pour
vous
donner...
Vous l'avez dit aussi cette phrase.
Bien sûr, oui. Vous donnez libre cours à tous ceux qui vous disent « mais enfin, il a un privilège, il va passer au travers, il va passer entre les gouttes, c'est toujours la même chose, les puissants, ils échappent », et on le dit tout de suite, et pas en dessous. La vérité, c'est pas celle-là. C'est qu'il est différent des autres. C'est-à-dire que vous pouvez pas considérer que l'on va juger de la même manière un ancien président de la République qui vient de sortir de son mandat et qui va prendre, comme il le dit, plusieurs séries de gardes à vue, oui, de perquisitions. C'est quand même pas commun.
Maître...
Là, pour le coup, la révolution, elle est là. Parce que le grand changement, il est là.
On a simplement l'impression, et Sarkozy comme les autres, qu'à partir du moment où on parle de mise en examen pour un politique, la présomption d'innocence n'existe plus. Et qu'il y a forcément, pour un politique qui doit être exemplaire, une présomption de culpabilité. Maître
Alors, non, parce qu'on est sur 2 temps différents. Il y a le temps médiatique et il y a le temps judiciaire. Et la mise en cause d'un responsable politique ou d'un grand capitaine d'industrie, quelqu'un de connu, je dirais, effectivement, on va avoir une résonance particulière. Il va y avoir une communication. On peut difficilement faire l'impasse sur la mise en cause judiciaire de l'ancien président de la République du côté des médias. Sauf que les médias vont traiter le sujet à un temps très, très, très court et que la justice, eh bien, il faut 1 an, 2 ans. Tu le sais comme moi, très souvent, on a eu un traitement médiatique très dur et l'ordonnance de non-lieu est arrivée 2 ans après avec une brève dans l'AFP.
Donc le mal est fait.
Donc là, oui. c'est un peu le problème en termes réputationnel, je dirais. Ce qui peut se réparer à un moment, je dirais que le mal est déjà fait, effectivement. Oui. Alors, en ce qui concerne la formule de Nicolas Sarkozy, bon, moi, je suis l'avocat de l'ancien président de Big Malion, et donc c'est moi qui ai dénoncé les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, donc je ne vais pas m'aventurer trop sur ce terrain-là. Je sais simplement qu'il y a plus de 20 ans, lorsque la justice mettait en cause, et donc les médias de fait, mettaient en cause effectivement un homme politique, il y avait une vraie révolution. Aujourd'hui, il y a un peu une banalisation. Une perquisition au siège d'un parti politique, il y a 25 ans, c'était quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, on banalise un peu. Bon, voilà.
Sauf pour Jean-Luc Mélenchon. Alors lui, pour le moins,
mais ça, c'est
que sa personne est sacrée.
Mais c'est Mélenchon qui c'est Mélenchon.
Il y a des faits retard sur les politiques, c'est assez intéressant.
Rémi nous écrit d'Avranches. Effectivement, les politiques ne sont pas différents des autres justiciables. De plus, quand ils trafiquent, ils le font avec l'argent public. Voilà qui énerve aussi. Alors là, on met de côté l'affaire Balkany. Oui. Hein, c'est pas du détournement d'argent public, mais voilà ce qui ressort aussi. Alors que Galdenao sur Twitter #Europe1 nous dit la délinquance en col blanc n'est jamais autant sanctionnée que les autres. Et lorsqu'il s'agit de politiques ayant une influence économique, c'est encore autre chose. Demandez à Monsieur Dassault, pardon, je fais pas, voilà, je cite simplement l'auditeur. Mais la délinquance en col blanc n'est jamais autant sanctionnée que les autres, vraiment, Maître Pardo. Alors que l'évolution entre politique et justice est notable.
Attends, en tous les cas, aujourd'hui, elle est franchement sanctionnée. La délinquance en col blanc, mais elle est sanctionnée pour les politiques, elle est sanctionnée également pour les chefs d'entreprise, pour toute une série de personnes. On a quand même créé une justice spécifique qui, avec le parquet national financier, oui. Jadis avait le pôle financier déjà, est une justice qui est complètement consacrée avec des vrais moyens à combattre cette délinquance en col blanc.
Et ça veut dire qu'il y a deux justices ou qu'il y a une justice plus spécifique ?
Il y a une justice spécialisée. Jadis, on disait, voilà, moi je me souviens quand j'étais magistrat, la seule personne avec qui je pouvais dialoguer réellement, c'était la greffière. Aujourd'hui, vous avez, avec toute la compétence qu'elle avait, enfin, en matière financière, elle n'était pas non plus top. Tandis qu'aujourd'hui, vous avez des juges spécialisés, d'accord, des assistants spécialisés, ouais, des policiers spécialisés.
Mais qui rendent une justice spécialisée ?
Elle est spécialisée dans la mesure où on est dans un domaine de très, très spécifique, parce que ça peut être très simple et ça peut être très compliqué. Lorsque vous devez enquêter sur des montages internationaux, que ce soit sur de la fraude fiscale, du blanchiment, etc., c'est très complexe. Donc il y a un pôle financier, il y a des magistrats spécialisés, il y a des assistants de justice, oui, qui peuvent venir des impôts, etc., qui vont aider effectivement les magistrats, je dirais, à se faire une religion par rapport à des dossiers spécifiques.
Et avec des peines de prison à la clé.
Parce que c'est compliqué. Parce que également... les accords internationaux se sont également développés. Il y a des conventions, il y a des pratiques en termes d'investigation, de recherche. Voilà, on a avancé par rapport à... Vous savez, lorsqu'il y a... moi, j'étais même pas avocat, donc c'est quand même assez ancien. Lorsque, pour la première fois dans ce pays, un juge d'instruction a inculpé, on disait inculpé à l'époque, un patron pour accident du travail. Ça a été un vrai scandale. Le garde des Sceaux s'est manifesté, le gouvernement, parce que on avait un juge... Et on a dit à ce moment-là un petit juge, parce que vous savez, on utilise la formule petit juge, et en l'occurrence, c'est un petit juge rouge, avait inculpé un patron. Aujourd'hui,
c'est pas l'affaire du notaire,
c'était un accident du travail. C'était vraiment un problème patronal, je dirais. Hein. C'était pas l'affaire du notaire de Brion-l'Artois, c'était le juge de Charette à l'époque, monsieur le Canuet, garde des Sceaux. C'est préhistorique ce que je vous raconte, mais c'est pour bien montrer l'évolution qu'il y a eu entre ce temps historique et aujourd'hui.
Bon, là, on parle d'école blanc, mais on va revenir à notre sujet de cœur sur la politique et la justice avec le témoignage de la réaction de citoyens, de Christophe. Il veut nous la livrer juste après au Standard d'Europe 1. Et puis, je vais vous demander, messieurs, à quel moment pour vous ça a basculé, au sens où à quel moment la justice a vraiment pris le dessus sur les politiques, justement, peut-être assez récemment, d'ailleurs. Certains parlent de l'affaire Cahuzac parmi nos auditeurs. Vous nous direz si vous les rejoignez. À tout de suite sur Europe 1 avec vos témoignages, ma chère Julie.
39-21. Et pour les réseaux sociaux, le hashtag Europe 1. Une heure de débat ce matin sur les politiques face à la justice. De DSK à Tibéri, d'Alain Juppé à François Fillon, de Jérôme Cahuzac à Nicolas Sarkozy. Si les juges s'acharnent désormais sur ces personnalités, c'est aussi pour l'exemple. Wendy Bouchard.
Oui, pour vous, est-ce normal que ces procès de politique soient autant médiatisés ? Est-ce que c'est bon pour la transparence ou au contraire, cela contribue-t-il à la désaffection et à la rupture de confiance que nous pouvons avoir avec ces politiques ? Maître Olivier Pardo, Maître Patrick Maisonneuve, merci d'être avec nous pour échanger et nourrir ces réflexions. Alors que Christophe nous rejoint au Standard et je vous donne la parole. Bonjour Christophe.
Bonjour Wendy, bonjour Julie.
Quel est votre sentiment sur le sujet qui nous réunit jusqu'à 10h, Christophe ?
Écoutez, moi, ce matin, je relisais la réflexion de La Fontaine. Selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
Oui.
Bon. Eh ben, je trouve que ce n'est plus vrai. C'est-à-dire que depuis une petite dizaine d'années, ça ne vaut plus. Je trouve que la justice devient de plus en plus libre. Vraiment indépendante et quand elle doit mettre des gens en situation de devoir répondre, je trouve que ils le font de mieux en mieux et avec une expertise de plus en plus précise, parce que comme un de vos invités le disait tout à l'heure, voilà, il y a des secteurs où c'est extrêmement complexe, mais je trouve que ça s'améliore et ça s'améliore rapidement. Après, il y a deux temps. Il y a le temps médiatique, il y a le temps judiciaire. Et c'est là où on peut se poser la question, est-ce que ce sont des justiciables comme les autres? Oui, dans le principe. Mais le fait que le temps médiatique prenne souvent le pas sur le judiciaire, on pourrait avoir le sentiment que non.
C'est une bonne analyse, Christophe. Avant de vous laisser continuer, je voudrais faire réagir Patrick Maisonneuve. Maître, vous avez publié « Justice et politique, le couple infernal » et vous pourriez rajouter aujourd'hui un troisième acteur, la presse, puisque Christophe de Rennes parle du temps médiatique, justement.
Il y a eu la presse. Alors, historiquement, à la fin des années 80, ce qu'on avait appelé les affaires politico-judiciaires vont se développer pour deux raisons. D'abord, une nouvelle indépendance des juges qui vont s'affranchir progressivement, je dirais, de la tutelle du pouvoir exécutif, et les journalistes qui vont aller de plus en plus dans l'investigation. Et donc, il va y avoir une espèce d'alliance objective. Je sais pas, c'est pas une alliance concertée, hein, y a pas de complot, mais une alliance un peu objective entre l'investigation journalistique et les juges qui mènent leur dossier. Et la médiatisation, elle va servir aussi à éviter la chape de plomb. Parce que c'est vrai que pendant des années, une période ancienne maintenant, ce silence assourdissant permettait d'éviter des poursuites contre tel ou tel responsable politique ou économique. Donc la presse a joué un rôle incontestablement
de transparence. Pour vous,
toutes les affaires de financement des partis politiques, parce qu'on parlait de financement des partis politiques à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de loi sur le financement des partis politiques. Donc on a commencé avec Urbain. On commence avec Urbain, pourquoi ? Parce que les socialistes sont au gouvernement à l'époque. Dès que les socialistes vont être partis, eh bien les juges vont s'intéresser au Parti Républicain, au RPR à l'époque, etc. Ça va s'orienter un peu différemment. Donc effectivement, cette chape de plomb, elle va sauter. Et c'est bien parce que effectivement, tout le monde était un peu épargné. Il n'y a pas de raison, les citoyens sont égaux devant la loi et devant les juges.
Alors, l'affaire Urbain d'un côté, voilà, qui ouvre un petit peu le bal à cette justice équivalente pour les politiques comme pour les citoyens, devoir d'exemplarité. Je vous fais réagir juste après la pause, Maître Pardot. Christophe, vous restez un tout petit peu avec nous, je voudrais échanger encore un peu avant que d'autres auditeurs nous rejoignent. Merci.
Comment défendre les politiques ? Sont-ils des justiciables comme les autres ? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités.
À l'occasion notamment du procès des époux Balkany, Maître Éric Dupond-Moretti, votre confrère, Maître Olivier Pardot et Maître Maisonneuve, a plaidé coupable pour la fraude fiscale, soulignant qu'il fallait payer après ce type d'infraction, mais garder la raison sur les peines encourues. Avant de reprendre Christophe et de vous lire la réaction de Michel, à partir du moment où vous défendez des politiques, qu'est-ce qui change pour l'avocat que vous êtes Maître Pardot, vous avez notamment défendu Bernard Tapie et Rachida Dati.
Ce qui change en premier lieu, c'est évidemment qu'il y a un interlocuteur majeur qui est la presse. C'est-à-dire que. Et qu'il y a une interconnexion.
C'est pas la presse qui fait le procès, quand même.
Il y a une interconnexion. Croyez-moi, les juges, ils lisent les articles, ils écoutent ce qui se dit. Et s'il y a des contradictions, par exemple, entre des déclarations qui sont faites à la presse et ce qui est dit devant le juge, il y a un sujet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que souvent, maintenant, vous commencez à comprendre qu'il va y avoir une affaire avant la convocation parce que vous avez un article ou un propos qui va faire que l'affaire commence à naître par des articles différents et que vous savez qu'il va y avoir un démarrage. C'est-à-dire, c'est une réalité, il faut la prendre comme telle. En réalité, vous vous rendez compte d'une chose très simple. Quand vous défendez des politiques, toutes les fragilités de notre procédure explose. Vous avez deux fragilités, deux principes qui sont fragiles dans notre procédure. La présomption d'innocence et le secret de l'instruction. Mmh. C'est deux principes, mais ils sont terriblement fragiles. Et là, ils volent en éclats. Et je comprends. Comment voulez-vous qu'un instant, on dise, par exemple, qu'on ne va rien dire sur une affaire qui concerne un ancien président de la République, un ministre en exercice, etc. C'est intenable. Ou, entre nous, quelqu'un pense-t-il dans l'opinion que M. Balkany est présumé innocent? Mais non, tout le monde se dit, et il est l'inverse.
Oui, mais c'est comme ça. Et le même
c'est-à-dire
Balkany,
ça tient pas.
Maître Pardo, le même Balkany, il a un avocat, Maître Éric Dupond-Moretti, mais il a envie de s'exprimer aussi. D'ailleurs, il s'exprime à la presse, qui a suffisamment fâché son avocat.
Il fait le choix de la communication. C'est vrai qu'aujourd'hui, en ce qui concerne notamment les responsables politiques, mais aussi d'autres, la communication, elle est omniprésente. D'ailleurs,
et vous avez aussi à gérer ça, vous, l'avocat.
Il y a un qui s'est créé depuis quelques années, qui sont des cabinets de conseil en communication de crise, qui travaillent avec des avocats. Et souvent, les grands groupes, on sollicite des cabinets de communication de crise. Ce que là où je vois Pardo, c'est effectivement sur la question de la présomption d'innocence. On en a beaucoup parlé au moment de l'affaire Outreau. Moi, j'étais l'avocat du juge Burgot. Et j'ai cru qu'après l'affaire Outreau, on allait être vraiment attentif à cette problématique de la présomption d'innocence. Malheureusement, non. Parce que ce que je crains, si vous préférez, c'est qu'en termes de communication, on a plus envie de communiquer sur la mise en cause et la culpabilité que sur l'innocence. Il faut dire les choses clairement par rapport à ça. Mais on n'a pas le choix. On est obligé aujourd'hui de communiquer parce que, de toute façon, il y aura la communication. Elle intervient de plus en plus en amont. Vous savez, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que avant d'être gardé à vue dans ce pays, dans un premier temps, vous êtes médiapartisé. C'est une nouvelle phase de la procédure pour moi. Voilà.
D'accord.
Vous êtes regardé à vue.
Oui, vous êtes regardé à vue. Christophe, vous êtes toujours avec nous et je vais vous laisser reprendre le cours de votre journée ensuite. Mais intéressant aussi d'entendre nos invités sur le moyen qu'ils ont pour défendre ces personnalités. Et là, je voudrais faire réagir à ce que dit Michel, donc entre auditeurs. Les gens qui sont jugés, ces puissants, sont toujours défendus par des cadors et pas par des stagiaires. S'ils étaient défendus par des gens sortis de fac, s'en sortiraient toujours aussi bien. Christophe, voilà, on a aussi, pour certains, une justice des puissants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Bon, l'histoire ne le dit pas. Je ne suis pas certain qu'on ait vérifié que le fait d'être défendu par, un avocat qui a un nom mérite un meilleur traitement. Je n'en suis pas vraiment convaincu.
Christophe,
votre sentiment du quand même,
ouais. Hein. Les stars du barreau, vous savez, ça peut être contre-productif devant des magistrats. Ça peut être contre-productif.
Christophe, réaction avant de vous libérer.
Non, je trouve que cette hyper-médiatisation, comme l'ont dit vos invités, c'est intéressant parce que quand je vois, j'ai rien contre lui, hein, mais Maître Dupond-Moretti qui se répand dans toutes les émissions de télévision, à la limite, je trouve ça effectivement contre-productif, c'est-à-dire que dans l'esprit du petit citoyen de base comme moi, hein, comme vous, on a le sentiment qu'ils s'en sortiront, ce qui est pas forcément le cas d'ailleurs. Mais et en plus, le peuple a souvent envie de faire un exemple des puissants, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent, cher, parce que quelque part, ces gens-là sont puissants, donc on a le sentiment qu'ils doivent être irréprochables, alors que ce sont des humains comme tout le monde, et qu'ils peuvent faire des erreurs, et s'ils ont fait des erreurs, ils doivent payer.
Oui, mais regardez, ils s'en sortiront. Alors Alain Juppé, inéligibilité, parti en exil au Québec,
Jacques Chirac,
Alain Carignan en prison, Bernard Tapie jugé en ce moment,
Cahuzac condamné,
Thomas Thévenoud également.
C'est plus vrai tout ça.
C'est fini. Est-ce que l'affaire Cahuzac, merci beaucoup Christophe pour votre appel, l'affaire Cahuzac a été pour vous un tournant aussi en termes de prise de conscience très générale de l'opinion, de moralisation aussi de la vie politique?
Je crois qu'elle a également contribué dans une dernière ligne droite sur le terrain de l'exemplarité, parce que c'est vrai que lorsque vous êtes en charge de l'impôt, du budget, de la fraude fiscale,
et que vous avez des comptes à l'étranger,
avez franchi cette ligne jaune-là, on a un problème d'exemplarité. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure,
Rappelons c'est la question de la démocratie qu'il a quitté son ministère, évidemment, Fissa, mais qu'il l'a tenu un moment avant de quitter son poste de député.
Hein. Bah, oui, considérait qu'il avait des propos par rapport à l'Assemblée nationale, au président de la République de l'époque. Bon, clairement, aujourd'hui, ce n'est pas d'accablé de le dire, mais il y a eu un phénomène de trahison majeure, avec ce qui renvoie sur la question de la démocratie, de la perception que l'on peut avoir, et du jusqu'au boutisme. Lorsque j'entends effectivement la question de l'exemplarité, il faut qu'il paie cher. Non, il faut qu'il paie juste, je dirais. C'est pas le problème cher, c'est juste. Mais pas au-delà. Je veux dire, il faut pas non plus que celui qui a eu des responsabilités politiques, lorsqu'il rentre dans une salle d'audience où il est prévenu, qu'il ait déjà un handicap.
C'est ça, mais ça, vous n'avez pas vraiment répondu à la question. Est-ce qu'il paye juste ou est-ce qu'il paye vraiment cher? Plus cher que les autres, Olivier Pardoux.
Dans les réquisitions, il paye cher. C'est-à-dire que le ministère public, les procureurs, quand ils prennent la parole, ils sont en mission.
C'est ça. Donc c'est politique.
C'est politique, mais pas au sens ils ont reçu un coup de fil du ministre. C'est pas ça. Ça marche pas comme ça. Ça marche plus comme ça.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'intégration de ce que doit être une politique pénale et la volonté d'être particulièrement dur avec ceux qui ont des responsabilités. Et donc, vous avez des réquisitions qui sont terribles. Je ne veux pas rentrer dans des procès qui sont en cours. Mais face à des dossiers qui sont souvent extrêmement minces, voire vides, entendre des réquisitions comme 5 ans d'emprisonnement, c'est étonnant. Et il n'y a pas de distance, parce qu'ils portent aussi des éléments. Moi, j'ai connu un dossier où, quand les magistrats ont prononcé une relaxe, ils ont dit que les personnes étaient innocentes, ils ont pris un temps pour expliquer pourquoi ils faisaient une relaxe et que l'opinion comprenne bien que ce n'est pas pour autant qu'ils ne condamnaient pas la fraude fiscale, puisqu'il s'agissait de cela, mais que dans ce cas présent, c'était quand même très particulier, c'était technique. Enfin, t'es juge, tu prends une décision, tu assumes la décision, tu ne vas pas expliquer cela. Quand ils condamnent, ils ne disent pas « excusez-nous, on va vous condamner ». Là, c'était « excusez-nous ».
Excusez-nous, c'est ça. Ouais.
Oui, mais là encore, ce sont les procureurs.
Les procureurs, c'était les juges.
Hein. Oui, non, mais là, en l'occurrence, quand on parle de réquisition pour les auditeurs, les procureurs demandent les peines et les juges, ce sont eux qui arbitrent. Malheureusement, c'est peut-être le même corps, ils sont deux corps différents.
Un grand problème.
Mais toujours est-il que ce sont les procureurs. Que les procureurs estiment à un moment, en termes de politique pénale, qu'il convient d'être plus rigoureux sur tel ou tel terrain. C'est leur droit, je dirais, c'est leur mission. Lorsqu'on parle de harcèlement sexuel, et lorsqu'on met une politique pénale en place où on va aggraver les poursuites pour harcèlement sexuel, les procureurs sont dans leur rôle à ce moment-là. S'il s'agit de poursuivre la fraude fiscale avec plus de rigueur, les procureurs sont dans leur rôle. Après, au juge d'arbitrer.
Merci beaucoup. Sylvie, avant la pause, nous dit « Je trouve que le mot acharnement est inexact. Les juges font en effet leur métier comme pour n'importe quel autre justiciable pour lequel on n'emploiera jamais ce terme. » Et pourtant, trois petits points. Marie-Christine va venir réagir également avec Maître Olivier Pardoux et Maître Patrick Maisonneuve pour parler de ce couple infernal justice et politique. Les politiques, vous semble-t-il, des justiciables comme les autres? Je crois qu'on a commencé à bien répondre à la question.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. La solution des pro pour imprimer des timbres depuis son bureau. Après une première semaine d'audience consacrée aux soupçons de fraude fiscale, le deuxième volet du procès des époux Balkany s'est ouvert hier au tribunal de Paris. Il faut savoir qu'avant les époux Balkany, d'autres politiques ont déjà eu affaire à la justice. Comment se sont-ils défendus? Est-ce qu'ils doivent servir d'exemple? Pourquoi ces procès suscitent-ils tant d'intérêt? Wendy Bouchard.
Avec des affaires politico-judiciaires, elles sont nombreuses. Des affaires de financement des partis politiques, les surfacturations, sous-facturations de campagne, des affaires politico-financières sur fond mafieux. Je pense au Sud avec l'affaire Guérini, la confusion des genres. Marie-Christine, vous êtes avec nous au 39-21 pour réagir auprès d'Olivier Pardoux et de Patrick Maisonneuve, deux avocats au barreau de Paris. Bonjour madame.
Bonjour.
Dites-nous Marie-Christine, quel est votre sentiment sur la justice des plus puissants? Sont-ils aujourd'hui rattrapés et jugés, pour l'exemple pour certains, mais en tout cas jugés aussi bien que les autres?
Alors moi, mon avis, c'est que pour ce que vous disiez là, tout ce qui est politico-judiciaire, pour moi, c'est pas utile de mettre les personnes en prison. Parce que je pense que le fait d'être déjà inéligible pour un homme politique, pour moi, c'est déjà de la prison.
Oui.
Parce qu'à partir du moment où on s'engage en politique, on a ça dans les tripes. Hein, donc le fait d'être inéligible, pour moi, je pense que c'est la pire des choses. Et en fait, ces personnes, si on les met en prison, elles sont des traitements de faveur. Et en fait, ce traitement de faveur, c'est nous qui le payons, hein, c'est avec nos impôts. Et pour moi, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est... si c'est de l'argent, des fonds placés à l'étranger dans les paradis fiscaux, etc., les faire rapatrier, faire payer les impôts, tout ce qui est dû, ça ira dans les caisses de l'État, donc ça bénéficiera à tous les Français, mais pas les mettre en prison. Voilà.
Alors, votre sentiment là-dessus, parce que vous disiez, Patrick Maisonneuve, qu'aujourd'hui, les peines d'inéligibilité, elles sont quasi automatiques.
Quasi systématiques. Aucun élu qui comparaît devant un tribunal y échappe à l'heure à laquelle nous en parlons. 2 ans, 3 ans, 4 ans,
et ils reviennent, Alain Juppé, Patrick Balkany, ensuite,
ils peuvent revenir à un moment ou un autre. Il y a toujours un décalage, si vous préférez, dans la vision qu'on peut avoir. Vous savez, les Français, ils sont assez paradoxales, parce que d'un côté, effectivement, on appelle à l'exemplarité, mais si vous voyez les citoyens d'un élu, ils sont très protecteurs par rapport à leur élu. Je me souviens que lorsque Jacques Médecin avait un mandat d'arrêt international à l'époque, vieille époque, mais il y a 80% des gens de Nice soutenaient Jacques Médecin, donc je ne prendrai pas un exemple plus proche de nous, bien évidemment. Donc, inéligibilité, oui. Les peines d'emprisonnement ferme, ça commence. C'est comme ça. Ça commence maintenant, ce n'est pas rare, c'est quelque chose qui est en train de, effectivement, je ne vais pas se développer, parce que la justice ne se développe pas, mais ce sont des sanctions qui sont prononcées, la peine d'emprisonnement ferme, c'est à Marseille, vous avez la prison ferme aujourd'hui, voilà, c'est tout.
Mais ça sert à quoi, en fait, de la prison ferme dans ces cas-là? Pour moi, ça sert à rien.
Général, la prison ferme, en général, elle sert... Il y a deux choses, si vous préférez. Il y a le thème de la sanction. La prison, c'est la punition pour montrer que ce sont des citoyens comme les autres,
Marie-Christine.
Alors, elle est nécessaire, la punition.
Ma position n'est pas que pour les politiques, elle serait pour tout le monde.
Pour les cols blancs, justement. D'accord.
Mais pas seulement pour les cols blancs, si on comprend bien. Parce que, vous savez... on peut aussi se poser la question, si je fraude le fisc à 100 millions d'euros, j'ai de la peine de prison avec sursis. Si je vole une moto et que je suis en comparution immédiate, je suis à 6 mois ferme. On peut aussi se poser cette question.
Hein. Et là, c'est tout le problème. Et moi, je rejoins assez notre auditrice pour une raison simple. C'est-à-dire que le progrès dans la justice, pour moi, c'est l'alternative à la prison. Mais l'alternative à la prison pour tout le monde. C'est-à-dire que je considère que la prison, c'est l'ultime sanction. Et alors, tout à coup, quand il s'agit des politiques, le progrès, le miracle, ça serait de les mettre en prison. Je trouve ça incroyable.
Oui, c'est vrai, par exemple,
on est tous sur l'individualisation de la peine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive devant un juge, on va essayer de réfléchir avant de le mettre en prison pour trouver d'autres solutions. Notamment, c'est la patte quasi. Quand c'est un politique, le progrès, le miracle, quelque chose qui serait formidable. Je lis des journaux ou des sites qui disent « Enfin, on va mettre, quand il y a eu Claude Guéant, quand il y a eu d'autres, enfin, on a prononcé une peine d'emprisonnement. »
Il y a des procédures alternatives pour répondre à votre auditrice. Il y a aujourd'hui des procédures alternatives où il y a des accords qui peuvent être passés avec le procureur de la République, où vous plaidez coupable, vous payez ce que vous devez,
oui.
Et il y a un jugement juste homologué avec un accord sur la peine. On se rapproche un peu des Américains.
Voilà, merci. Voilà. Eric Christine, vous avez déjà une réponse à votre question et un sentiment qui est partagé par une réalité juste après la pause. Maître Pardo et Maître Maisonneuve, encore quelques instants pour parler des politiques face à la justice.
Quand le politique n'est plus au-dessus des lois.
Intéressant, vous parlez, chers amis, hors micro et pendant la pause, et Julie, vous disiez, mais qu'est-ce qu'il est long le temps de la justice pour les politiques. Alors, on pourrait avoir ce sentiment, sauf que, affaire Fillon, il y a un cas. Procédure ultra rapide, affaire mise en examen, il continue sa campagne, jugement express. Hein, Maître Le Borgne, un de vos confrères, justement, parlait de. Voilà, d'un procès étonnant en la matière.
Notre confrère Lévy. a essayé de démontrer, il y a même eu un livre là-dessus, cette rapidité incroyable. Alors, de deux choses l'une.
Ah, pourquoi ? Et là, il voulait
pourquoi
faire exemple,
lui, par exemple, il en a bénéficié, lui.
Alors, je crois qu'il y a eu deux choses. La première, c'est que c'était, pour l'institution judiciaire, le dossier exemplaire. C'est-à-dire que vous aviez le parquet national financier qui venait d'être créé. Vous aviez une affaire qui sortait par la presse, par le Canard enchaîné, qui était une affaire qui concernait un candidat majeur à l'élection présidentielle. Vous aviez deux attitudes, d'ailleurs deux attitudes qui étaient partagées au pôle financier entre les juges. Vous aviez une attitude qui était de dire « on se retire, on laisse passer la campagne et après
et chez les présidents, on juge comment
et chez les autres qui disaient « non, au contraire, il faut le plus vite possible donner l'information aux citoyens sur ce qu'est ce dossier, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ». Et à mon sens, là, vous avez eu quand même une position à la mise en examen aurait pu attendre un peu.
Mais attendre quoi ? S'il avait été élu président de la République, on l'aurait jugé au terme de son quinquennat, peut-être ?
Le problème, attendre, c'est attendre des échéances électorales. Des échéances électorales, aujourd'hui, il y en a tout le temps. Donc, si on attend l'élection au Conseil général, les députations au Sénat, etc., pour engager des poursuites, il n'y en aura plus de poursuites. Ouais. Et lorsqu'on parle d'égalité des citoyens devant la loi, eh bien, c'est bien de cela dont il s'agit. Et il y a une chose qui me paraît quand même assez paradoxale dans cette histoire, c'est qu'à partir du moment où on clame son innocence, on va pas se plaindre que la justice organise très vite un procès pour que cette innocence soit enfin totalement
messieurs,
déclarée.
Encore une question, Françoise de Nice, mais qui réagit à ce que vous dites aussi sur Facebook. Un ministre peut être déchu, jugé, mais existe-t-il encore une impunité parlementaire ? C'est-à-dire que pour les députés...
Alors, il y a une immunité parlementaire en ce qui concerne les mesures coercitives. Si vous voulez mettre en garde à vue, incarcérer ou en contrôle judiciaire un Parlement, il faut demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ou au Parlement européen d'ailleurs, de lever l'immunité parlementaire. Aujourd'hui, un parlementaire peut être mis en examen sans problème de lever l'immunité, mais si vous voulez le mettre en prison, par exemple, il faudra demander au bureau du Sénat ou de l'Assemblée nationale
de
lever son immunité.
Mais
il sera jugé comme un autre. Et je peux vous dire par expérience qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui s'est passé avant, justement, l'immunité parlementaire, elle est prononcée de façon quasi systématique aujourd'hui. Elle l'a levée de l'immunité parlementaire.
Et l'immunité présidentielle, elle existe encore ?
Vous avez même une impossibilité de poursuivre le président de la République pour tous les actes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. Sauf ce que l'on appelle la haute cour qui n'a jamais été mise en place ce qu'on appelle la haute trahison, et qui n'est pas définie non plus, et qui est quand même un jugement politique.
Mais en réalité, c'est pour ça d'ailleurs que Jacques Chirac sera jugé après son mandat sur les affaires de financement de l'hôtel de ville.
Qui était antérieur à son mandat, il sera jugé
après son mandat.
En revanche, vous pouvez, un président de la République a une immunité totale tant qu'il est président de la République et pour tous les actes qui se rattachent à l'exercice de sa fonction.
Même si ça nuit à la France ?
Ça serait la haute trahison, qui est une procédure très spécifique avec
et qui n'a jamais été utilisée.
Qui était une pensée du général de Gaulle à un moment donné, parce qu'il avait encore dans l'esprit ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec le pétainisme, mais vous n'avez pas cela. Et là, c'est une justice politique. D'ailleurs, Patrick Maisonneuve connaît également la Cour de justice de la République,
qui est
une cour qui est composée avec...
pour les membres du gouvernement,
quelles affaires ?
J'ai eu l'affaire du sang contaminé où je défendais l'ancien ministre de la Santé.
D'accord.
Et la dernière affaire, c'était pour Christine Lagarde.
Très bien. Voilà. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir pris le temps de faire la lumière aussi sur cette question avec vos expériences et vos intelligences. Maître Olivier Pardoux, avocat au barreau de Paris, et maître Patrick Maisonneuve, dont je rappelle l'ouvrage Justice et politique, le couple infernal aux éditions Plomb. Merci, messieurs, pour ce tour de la question.
Merci à vous.
Je ne sais pas si vous êtes amateur de séries. Les politiques le sont en général. Vous aussi ?
Oui.
Lesquels ?
Oui,
moi
j'ai Engrenage, le Bureau des Légendes.
Très bien, c'est
cool. Mais j'étais l'ancien aussi, l'ancien patron du renseignement intérieur. C'est pour ça que
c'est pour ça que vous êtes encore dedans. Et vous,
moi j'aime énormément les séries israéliennes que je trouve absolument extraordinaires, telles que Fauda.
Voilà, Fauda.
Qui est une série et When the Hero Fly. Également, que je recommande à tous vos auditeurs.
Merci, elles ont colonisé nos vies, les séries et le phénomène Game of Thrones. On va en parler jusqu'à 11h. N'hésitez pas à réagir. À tout de suite sur Europe 1, Julie.